Poste. Phare FM.
Vous écoutez Phare FM, la radio autrement, dans la nuit autrement. Bienvenue.
Phare FM.
La Bible dit:
tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Ton verre est plein, est-ce encore de ma faute? Si tu le vides, ce le sera sans faute. J'ai trébuché sous le poids de tes mots, mais relevé, tout ne sonne pas si faux. C'est faux. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Bien ma faute, ma faute. La nuit est calme, sans le son de ta voix. Si tu la hausses, ce ne sera que sur moi. Je reste seule, assise avec mes larmes, celle qui reste après tout le vacarme. C'est bien ma faute. Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Parfois je ne te reconnais même pas. J'entends le bruit sans entendre ta voix. Tu vois, je t'aime malgré tout ça. Maintenant je sais que c'est pas moi. Pourtant je suis tombée si bas. Avec toi je ne m'aimais pas. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Je pensais si forte, mais l'inverse est passé quand j'ai claqué la porte. Sans toi, beaux jours reviennent, ce sera plus jamais ma faute.
Step one, you say we need to talk. He walks. You say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. Past his defense without granting innocence. followed. He will do one of two things. He will admit to everything, or he'll say he's just not the same. And you'll be
To Save a Life, c'était The Fray sur Phare FM. Il est 1h06 et c'est la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement. On a été créé pour un but, c'est Claude Gréder qui nous en parle dans Pain de Vie tout à l'heure. On retrouve également notre séquence, bah oui, ce sont les langages de l'amour. Et puis bien sûr, de la musique, tout de suite Jimmy Needham, Right Where You Are. À tout à l'heure.
5 heures.
La nuit autrement
avec Mireille.
I understand what I've been told. You're what I've heard but barely known. Like a man who's a master. Not just his silhouette. Oh, 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 oh. Take me above the sun, moon, and stars. There's so much more I could see if you would just carry me up to the place where you are. Chasing you, I will run right past the se cherche, on voit bien que les fleuves s'assèchent, mais on persiste et on résiste. On sent bien que l'amour est fragile, on se tient quand nos vies vacillent, et on s'accroche, on se rapproche. Si on allait toucher le ciel, là où se cache l'essentiel. Si on déployait nos ailes comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, décrocher la lune comme un oiseau, rêver plus beau, aller plus haut, au sommet des dunes.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
Jérémie chapitre 1, c'est le moment où Dieu parle pour la première fois au prophète Jérémie. Et il lui dit des choses qui le concernaient évidemment, mais qui nous concernent chacun d'entre nous aussi. Nous lirons ces quelques versets à partir du verset 4, Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, c'est-à-dire mis à part, et je t'avais établi prophète des nations, c'est-à-dire mon porte-parole auprès des nations. Et je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais pas parler, Seigneur, je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et on reprend le verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et dans Colossiens chapitre 1, je vous lirai ce seul verset, cette deuxième partie du verset, Colossiens 1 verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce texte est étrange. Il nous parle d'un Dieu qui nous connaît tellement bien qu'il nous connaissait avant même qu'on ne soit conçu. Et dans Colossiens, on nous dit que tout, absolument tout, a été créé par lui, tire son origine de lui et a été créé pour lui, a été créé pour un but. Jérémie, Dieu le connaissait avant qu'il ne l'ait fait. Et il l'a fait naître à un moment précis pour un but précis. Il savait comment il allait être psychiquement, psychologiquement, quelle allait être sa fonction plus tard, la charge qu'il allait recevoir sur les épaules. J'aimerais dire que face au vide existentiel que laisse une société aussi matérialiste que la nôtre, eh bien, il y a une forme de quête de sens qui vient de plus en plus. D'où je viens ? Où je vais ? Que fais-je sur terre ? Et puis, si Dieu vraiment existe, pourquoi a-t-il permis que ceci ou cela arrive dans le monde, m'arrive à moi ? Autant de questions qui méritent des réponses. Et j'aimerais ce soir voir avec vous deux points très simples. Le premier point, c'est que Dieu fait tout pour un but. Dieu avait créé Jérémie pour un but précis. Jérémie avait été donné par Dieu à un moment clé de l'histoire d'Israël pour qu'il accomplisse et parle en son nom à son peuple. Dieu fait tout pour un but et Dieu connaît aussi bien Claude qu'il ne connaissait Jérémie. Et Dieu vous connaît. Et Dieu vous connaît parfaitement bien. Ça avait été dit ce soir déjà en allusion pendant un temps prophétique que Dieu nous connaît parfaitement bien. Dans son infinie connaissance, ce soir, Dieu a parlé par une partie de connaissance, une parole, un extrait de connaissance, et il a révélé ce soir à différentes personnes qui les connaissaient et qui voulaient les toucher d'une manière ou d'une autre. Dieu te connaît ce soir. Non seulement il connaît chaque cheveu sur ta tête, mais en plus il sait quand tu te lèves, quand tu t'assieds. Il sait la parole que tu vas dire de ta bouche avant même qu'elle n'ait été formulée. Et avant même que tu n'existes sur terre, tes jours étaient déjà devant ses yeux. Il connaissait le jour de ta naissance comme il connaît aussi déjà le jour de ton départ. Dieu te connaît et Dieu nous connaît parfaitement. Vous allez me dire, mais moi je suis né, personne ne m'a désiré. Peut-être c'est vrai. Il y a des parents qui sont des parents illégitimes. Mais il n'y a aucun enfant illégitime. Parce que Dieu les connaît. Et Dieu connaît chaque être humain. Et chaque être humain a été voulu par Dieu. Même ceux qui sont nés dans des situations difficiles. Pour preuve, j'en veux ce texte de Matthieu 1. Où dans l'arbre généalogique de Jésus, on trouve un certain monsieur Pharèse. Et Pharèse n'est pas n'importe qui. Pharèse est le fils de Judas, fils de Jacob, et de Tamar, sa belle-fille. Judas avait des fils. Un premier qui est marié Tamar. Et puis il est mort. Et puis comme c'était de coutume à l'époque, pour assurer une descendance à son frère aîné, eh bien cet homme va donner le deuxième fils à cette femme-là. Et il meurt aussi. Et Tamar est seule. Et puis encore un petit-fils qui est derrière, mais il est trop petit. Et Tamar voit ce garçon grandir, et à un moment donné, elle voudrait être mariée et avoir un fils. Et cet homme ne veut pas faire. Et elle va le tromper. Elle va se prostituer. Et c'est Judas qui va aller voir cette femme. Une histoire terrible. Et on peut se dire, ce garçon ou ces garçons, c'était des jumeaux, c'est des bâtards. Excusez-moi, ce n'étaient pas des bâtards, c'était des garçons voulus par Dieu. C'est fou dans la logique, mais néanmoins, vous avez été comme ce pharèse, été voulu par Dieu. Et vous n'êtes pas né par hasard là où vous êtes né. Vous êtes né quand vous êtes né parce que Dieu a voulu que vous naissiez à ce moment-là. Dieu connaît votre histoire. Et Dieu vous a créé pour un but précis. Comme il avait créé Jérémie pour un but précis, afin qu'il soit un prophète auprès des nations, eh bien Dieu aussi vous a créé pour un but précis. C'est pas un hasard que vous soyez né en France ou en Turquie ou en Afrique. Dieu l'a voulu ainsi. Peut-être vous discutez avec le Seigneur la couleur de votre peau ou la couleur de vos cheveux, mais Dieu l'a voulu ainsi. Et Dieu vous aime ainsi. Dieu vous trouve magnifique ainsi. Vous êtes une créature merveilleuse. Dieu vous connaît, Dieu me connaît, et Dieu sait ce qu'il veut faire de nos vies. C'est mon deuxième point ce soir. Dieu sait ce qu'il veut faire de ma vie, et Dieu sait ce qu'il veut faire de ta vie encore. Peut-être tu as des cheveux blancs et des cheveux gris. L'aventure a commencé à 75 ans pour Abraham. Dieu a des plans, il avait fait naître Jérémie pour un but précis. Et il lui dit, avant de t'avoir formé, je t'avais déjà destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dieu a des intentions précises pour chacune de nos vies et déterminées. Alors évidemment, on souhaite tous que Dieu nous donne une vie pleine de succès. Mais voyez-vous, je pense qu'il y a profondément une différence entre une vie remplie de succès et une vie réussie. Il y a des gens qui prient tout le temps, donne-moi du succès Seigneur, au travail, à l'école. Mais le fait d'avoir un succès au travail ou à l'école ne veut pas dire que vous ayez réussi votre vie. Si on devait mesurer le succès de Jérémie le prophète, on pourrait dire que ça a été un vrai cauchemar, Jérémie. Jérémie a été un ministère absolument sans succès. Personne ne l'a suivi. Tout ce qu'il disait, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a écouté. On comprend un peu, parce qu'évidemment, il a aussi prophétisé des choses difficiles à écouter. Mais encore, tout ce qu'il avait dit, c'est réellement accompli. Personne ne l'a écouté. Il a été considéré comme un traître par le roi et par ses compatriotes, enchaîné, menacé de mort, mis à un moment donné au fond d'une citerne pleine de boue jusqu'au cou. Il a failli y rester à plusieurs reprises. Et finalement, il était là, au fond de la citerne, sauvé par un Éthiopien, même pas un Israélite. On pense qu'il avait été déporté à la fin de sa vie en Égypte et qu'en cours de route, quelqu'un l'ait tué, notamment un Israélite. C'est ce qu'on pense. C'est pas écrit. Vous appelez ça une vie pleine de succès? Et pourtant, Jérémie avait réussi sa vie parce qu'il avait atteint le but que Dieu lui avait assigné. Annoncer à Israël les malheurs si des fois il ne voulait pas se repentir. Et c'est ce qui est réellement arrivé. Christ, prenons l'image de Christ. Est-ce que Jésus-Christ avait une vie pleine de succès? Un temps, oui. Un temps, la foule l'a suivi. Un temps, il y avait les miracles, les petits pains. Mais finalement, il ne s'est jamais marié. Il n'était pas riche non plus. Et puis finalement, il a fini entre deux croix comme un vulgaire brigand. Pour un succès, c'est pas folichon, hein. Mais est-ce que Christ avait réussi sa vie? Oui. À la fin de ses jours, tout juste avant de rendre l'âme, il a pu s'écrier « Tout est accompli ». Je traduis en français courant « Père, tout ce que tu m'as demandé de faire ici-bas sur terre, je l'ai accompli, je l'ai fait, le boulot est terminé. Je peux rendre le tablier. » Oui, Christ avait une vie réussie. Je pense que des fois dans nos prières, nous prions tellement pour notre bonheur. Je pense honnêtement qu'on ferait mieux de prier « Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Aide-moi à aligner ma vie sur les objectifs et les buts que tu as fixés pour moi. » Et vous savez quoi? Le bonheur sera un produit dérivé de cette démarche-là. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. » Y compris le pain, le vin, l'argent, le chauffage, les habits, tout ce qu'il me faut pour vivre. Mais le centre de l'existence, le but de notre vie, n'est pas notre nombril à nous. Le but de notre vie devrait être Christ et Christ seul. Paul dira à la fin de ses jours, « Je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but afin de tenter de remporter le prix de la vocation céleste et de connaître le Christ, de le connaître lui. » Dieu vous a créé pour un but. Jérémie avait été créé par le prophète des nations. Jean-Baptiste avait été créé juste 6 mois avant Jésus, afin qu'il soit le précurseur de Jésus. Pierre a été créé pour être l'apôtre des Juifs. Paul a été créé pour être l'apôtre des païens. Et vous et moi, nous avons été créés pour un but précis. Le fait de savoir cela vous donne de la force dans les moments difficiles. Dieu savait par avance que Paul et Silas un jour seraient fouettés et mis en prison dans la geôle. Et ce faisant, sachant cela, ils ont pu louer Dieu alors qu'ils étaient au fond du trou, au fond de la difficulté. C'était pas une mécanique évangélique qu'on mettait en route. Non, c'était l'assurance qu'un Dieu d'amour était là avec eux au fond de la geôle. Et c'est pour ça qu'ils ont pu chanter dans le côté sombre de leur existence. Et parce qu'ils ont chanté leur louange comme vous et moi ce soir, la gloire de Dieu a pu se manifester et Dieu a pu rompre leurs chaînes et libérer les prisonniers et libérer les captifs et voir le geôlier se convertir. Passes-tu un temps difficile? Dieu sait par où tu passes maintenant. La Bible dit, au psaume 23, que l'Éternel part avec nous lorsque nous traversons les vallées sombres. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Il n'est pas dit tu es loin de moi. Psaume 91, verset 15 dit que l'Éternel part avec nous dans nos malheurs. Qu'il nous délivre et que nous le glorifierons. L'Éternel nous connaît, il sait par où nous passons. Et parce que nous savons qu'il sait, ça nous donne de l'assurance pour continuer à le louer et à le servir avec joie. Les uns ont été créés pour être des apôtres, des évangélistes, des prédicateurs. D'autres ne le sont pas, mais ils servent néanmoins Dieu. Pendant un temps, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fiche au fond d'une école primaire, au fin fond du Sungo? Moi, je me sentais appelé à prêcher un jour l'évangile. Et Dieu m'a pris et m'a dit, d'accord, maintenant d'abord tu vas faire l'école. Et il m'a appris des leçons d'une valeur absolument inimaginable au fond de ces salles de classe. Déjà, j'ai appris ce que ça veut dire être patient. Je ne l'aurais jamais appris ailleurs. Quand 25 bambins vous grimpent les murs et vous grimpent le dos et que vous n'avez qu'une envie, c'est d'exploser, et que Dieu vous dit, tu restes calme, calme-toi, ça vous fait les nerfs sous la peau. J'ai appris ce que ça veut dire diriger des petits-enfants. La valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, des petits-enfants. Pour moi, l'important, c'était les adultes, les gens qui réfléchissent. Et Dieu m'a ouvert les yeux sur la valeur des petits-petits-enfants. Ils sont fragiles, vulnérables, ils sont formatables. Et on peut leur communiquer tellement de choses, si petits. C'est pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Et plus loin, il dit, si quelqu'un scandalisait un de ses petits-enfants, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette une meule autour du cou, qu'on le jette au fond de la mer, que de devoir rendre compte pour ce qu'on a fait à ce petit-enfant. J'ai un ami qui est pasteur, c'est un excellent enseignant. Il enseigne la Bible avec une délicatesse et une profondeur. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fiches au fin fond du Kansas, dans une petite bourgade de 2000 habitants, où tu as une église de 100 membres? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fiches là? Il m'a dit, Claude, j'en sais rien, mais dans mon cœur, j'ai un amour pour les cow-boys. J'aime ces hommes et ces femmes simples. Dieu m'a donné un amour pour ces hommes. Et je les sers du mieux que je peux pour les gagner à Christ. Un autre ami, je le connais, c'est un biologiste, un chercheur en Suisse, dans une grosse branche pharmaceutique. Et lui, quand il me parle de ses recherches, moi je suis malade. Non mais enfin, moi je suis malade. Il est des heures durant devant des pipettes. Pipettes. Et puis il mesure, et puis il calcule. Et puis il me dit, mais je découvre la gloire de Dieu dans l'infini petit. C'est magnifique. Je loue le Seigneur derrière mon laboratoire. Et moi je me dis, toutes ces formules mathématiques me rendent malade. Mais lui, il sert Dieu en faisant des recherches qui un jour déboucheront sur un médicament qui vont aider beaucoup, beaucoup de gens. Dieu vous a créé pour un but. Dieu vous a créé pour un but. Et puis Dieu sait ce qu'il fait aussi. Même quand on passe des temps difficiles, une vérité fondamentale, Dieu sait ce qu'il fait. Je me demandais des fois au fond de mon école primaire, mais est-ce que Dieu sait où je suis là? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait en me mettant là-bas, avec des petits? Alors, en plus, je voulais des grands, mais il me donnait des petits. Est-ce que vous pensez que Joseph était content quand Dieu l'avait envoyé en Égypte, vendu comme un esclave? Et Jérémie. Mais Jérémie en a pris plein la figure. Si vous lisez Jérémie, moi je comprends qu'à la fin, il en a marre. Le gars, il n'en peut plus. Il se lamente. Jérémie 1, 2 et 3, il se lamente tellement qu'on appelle ça les Jérémiades. Les lamentations de Jérémie. Et à un moment donné, il y va fort, il dit, mais Seigneur, mais tu étais pour moi comme une ours qui m'a tapé dedans avec des coups de griffe. Tu tu m'as cassé les dents, tu m'as rendu honteux, je souffre intérieurement partout, ça fait mal. Je suis désespéré, tellement c'est difficile. Et peut-être ce soir pour toi aussi, malgré le fait que tu sais que Dieu t'aime et que tu viens de la part de Dieu et que tu es là pour un but, tu passes des temps tellement difficiles que tu pourrais t'identifier à notre ami Jérémie et dire « Oh Seigneur, mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et il dit là, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Oui, il se peut que malgré le fait que tu crois en Dieu, tu passes des moments tragiques et terribles. Mais dans ces moments-là, je vais te dire, voici ce qui va te donner de l'espérance. Les bontés de Dieu n'ont pas de limite. C'est un stock illimité. Des fois, on aimerait tous que le stock d'argent en banque soit illimité aussi sur notre compte, n'est-ce pas? C'est pas vrai, vous le savez. Par contre, la bonté d'Éternel, elle est illimitée. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Et sa fidélité est grande. Oui, Dieu sait ce qu'il fait, même si des fois tu passes par des choses terribles. Moïse, général, fils de Pharaon, il se savait appelé pour aller sortir Israël d'Égypte. Il se met au boulot et il se prend une gamelle. Et il part pour 40 ans dans le désert. 40 ans. Ça voulait dire que pendant 40 ans encore, des gens allaient mourir comme esclaves. Pendant 40 ans encore, des fils allaient espérer un jour voir la sortie d'Égypte et allaient mourir à travailler pour Pharaon. Mais Dieu, lui, il entend le cri, mais il voit aussi le cœur de Moïse et il prendra le temps de le travailler pour qu'il soit fin prêt. Et quand il est fin prêt, il dit, Moïse, vas-y. Il dit, oh, bah, écoute, Seigneur, tu comprends, moi, je suis qu'un pauvre petit berger, fin fond du désert là-bas. Envoie un autre. Je suis bègue. Il dit, ok, je t'envoie ton frère Aaron. Il va t'aider, mais c'est toi qui vas y aller. Parce que Moïse avait été créé pour un but. Il avait été créé pour être celui qui allait diriger Israël hors d'Égypte. Tu as été créé pour un but. Par contre, il y en a un autre qui voudrait justement que tu n'atteignes pas ce but-là. Il s'appelle le diable. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Amen. Le diable, lui, c'est un menteur. Il vient pour égorger, voler et détruire. Et si possible, dès le départ, il est venu mentir à Adam et Ève et ruiner le projet de Dieu de l'humanité. Il est venu dès le départ de la vie de Jésus l'attaquer par une armée. Imaginez voir une armée d'hommes de guerre en chasse d'un petit bambin. Quelle démesure! Mais ça vous montre la violence du diable. Et il n'a qu'une envie, c'est de ruiner votre vie et de ruiner ma vie. Dès le départ, il a envoyé une persécution contre l'église de Jérusalem. Dès le départ, Jérémie a eu des faux amis, un mauvais roi et un peuple opposé. Dès le départ de sa vie et de sa vision, Joseph, fils de Jacob, s'est pris l'opposition de ses frères et a été vendu comme un esclave. Oui, le diable est méchant et il existe. Et il peut travailler par ses démons, il peut travailler par des influences humaines comme Hérode, comme les frères de Joseph, mais aussi malheureusement par nous-mêmes, par nos mauvais désirs. Notre pire ennemi ne sont pas les autres ou le diable, notre pire ennemi c'est nous-mêmes. Et nos mauvais désirs que des fois nous ne contrôlons pas. La Bible dit que celui qui pêche nuit à son âme. Autrement dit, celui qui pêche ressemble à celui qui a un pistolet et qui se tire une balle dans la jambe. Il est le propre auteur de son malheur. C'est pourquoi je vous invite ce soir à ne pas pécher. Et si vous péchez, à arrêter de pécher. Parce que le but ultime, c'est que vous ratiez votre vie. Oui, vous pourriez avoir un jour du succès, comme tant de gens ont du succès, mais qui finalement ont quand même raté leur vie. Parce que finalement, ils termineront dans ce que le diable veut, pour eux comme but ultime, à ce qu'ils le rejoignent dans son royaume à lui. Un royaume décrit comme le royaume des ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un royaume des ténèbres d'abord. J'étais un jour avec Samuel, toi aussi Dominique, on était au fin fond d'une fine mine de potasse en visite guidée. On était à 900 mètres sous terre. Et je me souviens très bien, on regardait devant dans le camion vers l'avant du camion, ça allait assez bien. On sentait que c'était sombre et ténébreux, mais les lumières projetaient sur les parois une lumière justement, et ça reflétait, et du coup on avait une sensation de luminosité. J'étais assis au fond du camion, quand je me tournais à ma droite à 90 degrés, je voyais une nuit noire, mais noire, absence de toute lumière, effrayant. Sans lumière, pas de vie. Dieu est lumière. Et nous avons besoin de lumière non seulement pour notre vie physique, mais aussi pour notre cœur, pour être dirigé sur notre chemin de tous les jours. Un royaume sans amour, plein de haine. Dieu est amour. Ce monde ici-bas n'est pas toujours très beau à voir, n'est-ce pas? Il y a des guerres et des méfaits et des méchancetés entre les hommes. Mais cependant, il y a encore quelque part par endroit des oasis d'amour où les gens s'apprécient et s'aiment. Maintenant, imaginez un endroit où Dieu et l'image de Dieu est complètement retirée. Il n'y a plus un soupçon d'amour. Mais c'est terrible. Un royaume de pleurs et de grincements de dents à cause des regrets qu'on aura d'avoir choisi peut-être une vie pleine de succès, mais une vie finalement qui est ratée. Alors si vous avez une vie pleine de succès et une vie qui est réussie aux yeux de Dieu, tant mieux pour vous, hein. Je suis content pour vous, mais néanmoins, j'aimerais conclure ce soir en vous disant la phrase que Dieu a dite à Jérémie. « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir. » D'une manière ou d'une autre. J'ai un ami qui est un homme qui avait fait un séminaire théologique en 70, et à l'époque, quand j'étais aux États-Unis, on pouvait être servi de Dieu en étant pasteur. Mais lui me disait, Claude, moi j'étais fait pour les affaires. Je voulais faire des affaires et servir Dieu dans les médias. Mais à l'époque, on m'a mis pasteur. Alors j'étais pasteur, mais j'étais tellement mal à l'aise que j'ai arrêté au bout d'un an. Finalement, cet homme, il a fait affaires, beaucoup d'affaires, et il a créé plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis. À un moment donné, 20 ans plus tard, un homme d'affaires chrétien est venu lui dire « Je veux que tu me vendes tout. De la part de Dieu, je veux que tu me vendes tout. Et avec le bénéfice que tu vas faire, que tu continues à aider en Afrique l'implantation de radio chrétienne. » Il a tout vendu et il a investi tout son argent dans l'implantation de radio chrétienne en Afrique. Il a servi Dieu, non pas en tant que pasteur, mais autrement. Est-ce que tu peux te dire ce soir « J'ai été mis à part pour servir Dieu ?» Les uns, c'est d'excellents cuistots comme René, qui servent Dieu en faisant de la boucherie fine et des menus fins. D'autres, c'est des cuisinières, d'autres, c'est autre chose. Le Seigneur te dit ce soir, que tu sois beau ou pas beau, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois fortuné ou modeste, que tu sois intelligent ou moins intelligent, je t'ai créé avec amour et affection pour que tu joues ton rôle dans ce monde ici-bas et que tu trouves ta place. Tu es comme un pièce de puzzle qui va trouver sa place. Le diable te dit par contre, il n'y a pas de Dieu qui t'aime. Tu es le produit d'une lente évolution. Tu n'es qu'une larve évoluée, une bactérie qui a réussi. Tu finiras dans un trou et après c'est terminé. Alors très honnêtement, cette idée-là, elle est absurde. Vous aurez passé 20 ans de votre vie, pour d'autres 25 ans, voire 30 ans de votre vie, à vous former pour un métier, pour travailler 30 ans sur un métier, pour jouir de 15-20 ans de retraite, où vous aurez encore acquis d'autres connaissances, et tout ça pour finir dans un trou, mais c'est absurde. Mais la vie n'a de sens que dans la mesure où on présume que Dieu existe, et si Dieu existe, alors il y a un sens. Tout a été créé par lui, et pour lui. Et tu as été créé par lui, et pour lui. Et si tu veux savoir ce à quoi tu étais destiné, viens à lui ce soir. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si en cours de route, le diable a cherché à te démonter, à te dévier de la course, ou carrément à t'empêcher même d'aller vers ce chemin, ce soir c'est le moment de faire ce que Dieu a dit à Jérémie, et par Jérémie au peuple de Dieu. Il leur a dit dans Jérémie 6, verset 16, « Arrêtez-vous un instant. Regardez, informez-vous des expériences passées, cherchez le bon chemin et suivez-le et vous vivrez tranquille. » Le chemin, les chemins anciens sont très très simples. C'est le chemin de la repentance, où on reconnaît là où on a péché. Je voudrais ce soir vous dire et vous rappeler et nous rappeler, le péché peut être satisfaisant, savoureux pendant tout un temps. C'est ce qui le rend tellement addictif. On peut s'y plaire au péché. On peut avoir plaisir au péché. Tout n'est pas toujours aussi, n'est-ce pas? On peut aimer mentir, ça peut rendre service, notamment dans le commerce. On peut se faire plaisir entre radoteuses et radoteurs aussi d'ailleurs, à dire de mauvaises choses sur quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Jusqu'au jour où on passe même dans la moulinette. On peut prendre du plaisir à trouver bonne compagnie le soir auprès de bras qui ne sont pas forcément les bras du conjoint ou de la conjointe. Ça fait du bien. Mais finalement, ça nous détruit, ça me détruit, ça te détruit. Arrêtons-nous un instant. Prenons le temps de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Prenons le temps de dire, ouais, là franchement, j'ai dévié de la course. Là, il faut que je revienne. Il faut que je rattrape la barre. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Viens, ce soir, c'est le moment de dire, Seigneur, aide-moi de rattraper la barre, de te reconnecter à lui, de revenir à lui, d'aller vers celui qui a le chemin, la vérité et la vie. De retrouver le cap du but que Dieu t'a fixé. Et tu me diras, mais frère, ça fait 20 ans que je suis chrétien et je ne sais toujours pas ce qu'il veut de moi. J'aimerais te dire, c'est le temps de prier, que Dieu te révèle ce qu'il veut de toi. Parce que des fois, on est tellement sourd que Dieu arrête de parler. Ça fait déjà 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois qu'il t'a dit, mais tu n'as toujours pas entendu. Ce soir, prends le temps de déboucher les oreilles et de dire, Seigneur, parle. Ton serviteur, ta servante, écoute, je t'ai connu avant que le monde n'existe. Je t'ai connu avant que tu ne sois conçu. Et je t'ai mis à part afin que tu me serves. D'une manière ou d'une autre. Courbons nos fronts, fermons les yeux et cherchons un instant la face de Dieu. Tu as été créé pour un but. Et mon but ce soir, c'est que Dieu te montre quel est le but pour ta vie et que tu rentres dans les bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées pour toi.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Phare FM, ma radio.
Justice et la chanson Never End sur Phare FM, 1h48, la radio Autrement qui vous accompagne. Et c'est dans la nuit Autrement, les langages de l'amour, votre prochain rendez-vous. Et avant cela, de la musique, Ed Sheeran, photographe, c'est tout à l'heure. Ali et la chanson Aimer, c'est maintenant.
Encore une fois, mes pensées me font broyer de noir. Encore une fois, mon cœur s'adonne à ne plus y croire. Mes yeux revoient chaque faux pas et chaque défaite. Mais quand je te vois, je sais que tu oublies mes échecs. C'est pas que j'abandonne, mais je lâche prise. La honte n'aura plus son emprise. Je suis aimée, il me rachetait tel que j'étais. Et pardon. Je suis aimée, je suis aimée. Oh, oh, oh. Je suis aimée, je suis aimée. Oh, oh, oh. C'est pas que j'abandonne, mais je lâche prise. La honte n'aura plus son.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easier. That with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die.
photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. You got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold. I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Far FM. Les langages de l'amour.
Dans un mariage qui tourne mal, on pense souvent n'avoir que deux choix possibles. Se résigner à une vie misérable ou bien fuir. C'est se limiter à deux options aussi dévastatrices l'une que l'autre. Dans un de mes livres sur les couples en danger, j'explique comment être un catalyseur positif dans un mariage difficile. C'est vrai, vous ne pouvez pas forcer votre conjoint à changer, mais vous pouvez l'influencer. Un mari m'a dit « J'étais souvent en colère contre ma femme, mais maintenant, je réalise qu'elle est merveilleuse. » Les actions positives de sa femme ont fait naître en lui des sentiments positifs. Un peu plus de tendresse a suffi à transformer son comportement. Votre mariage va radicalement changer lorsque vous aurez compris l'importance d'une attitude encourageante. Vous n'êtes pas censé être malheureux à vie.
C'était Les langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, ma radio.
Tu vois, on a eu l'esprit. futur à présent, mon chemin face au vent, pour vivre à tous les jours.